FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué ben, Gospel en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol, la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Hein. Ceux qui appellent, en tout cas,
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h07 sur les bandes de Radio Canu, la plus rebelle des radios, la plus belle des radios, le 102.2 FM. Et ce soir, en direct et en stéréo, évidemment, c'est le Canu Info du vendredi. Un Canu Info du vendredi extrêmement riche. De quoi allons-nous parler ce soir ?
Eh bien, on va commencer par vous parler de Laurent Wauquiez qui offre des emplois fantômes à ses proches, un grand classique de la droite.
Une grande générosité chez Laurent Wauquiez, générosité qu'on ne retrouve pas du côté de l'Université Lyon 2 puisqu'elle a décidé de porter plainte contre l'UNEF TACL.
Par ailleurs, on vous parlera quand même de bonnes nouvelles avec le mouvement Pas de papier, pas de JO, de gens qui envahissent des chantiers. On vous racontera ça, c'était super.
Et puis des bonnes nouvelles à venir sans doute avec des personnes qui se mobilisent contre le chantier de l'A69, une autoroute inutile encore.
Et si vous écoutez Radio Canus et que vous ne vivez pas dans une grotte, et du coup il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler de ce qui se passe à Gaza, et nous on s'orientera surtout sur ce que ne fait pas notre gouvernement.
Et puis si vous ne vivez pas dans une grotte, c'est que sans doute vous vivez dans un logement, on vous fera une petite rubrique logement qui commencera par le fait que, eh bien écoutez, il y a des statistiques qui disent que plus on est pauvre, moins on a de chances d'obtenir un logement social, c'est hyper logique.
Et puis, bah, quitte à être pauvre, autant l'être vraiment. Et on vous parlera de l'interdiction des distributions alimentaires qui a eu lieu à Paris, c'était la semaine dernière, ça.
Et puis, la désormais traditionnelle rubrique animaux du Canu Info du vendredi, où on vous parlera du ronronnement des chats, puisque des scientifiques ont enfin percé ce mystère.
Et vous, pour suivre, ce sera l'agenda et évidemment le ACAB. N'hésitez pas à nous appeler, c'est au 04 78 39 18 15 pour nous donner vos meilleurs ACAB. Et ben, bonne écoute.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région ?
Wauquiez.
L'assistana est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. L'assistana aujourd'hui un des vrais concerts de la société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir ?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme ?
Quelle ferme ?
À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con ?
Une région modèle, c'est ce que veut construire Laurent Wauquiez. Est-ce que Laurent Wauquiez va réussir à devenir un modèle pour toutes les autres régions de France ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec une question d'assistana, puisque Laurent Wauquiez est soupçonné d'avoir offert des emplois fantômes à un certain nombre de ses proches. Et c'est une info qui nous vient de la cellule investigation de Radio France, qui a révélé hier que 4 proches de Laurent Wauquiez disposent d'emplois payés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans qu'aucun lien, malheureusement, avec des dossiers locaux ne soit véritablement établi. Alors parmi ses proches, on va un peu vous les lister. Nawel G, qui a été rémunéré 5 080 € net par mois, ce qui n'est pas dégueulasse, pour bosser à Paris. Et ses tâches réalisées pour la région, bah, mystère en fait, hein, de l'aveu même des services administratifs de la collectivité territoriale, qui ont écrit dans un document interne que ce poste, qui ne figurait dans aucun organigramme, personne n'a trouvé trace de ce poste. Et donc la région dit, a priori, ça n'a ni utilité ni contenu, c'est quand même les termes officiels. Le hic, c'est que cet employé mène en parallèle aussi une activité de conseil en relations publiques et communication au sein de sa propre société, toujours basée à Paris. À la région, et au regard de ses nombreuses missions exercées par l'intéressé au sein de l'appareil de Les Républicains, parti de Laurent Wauquiez, certains estiment qu'il s'agit en fait d'une poste purement politique, assez classique, visant en fait à travailler pour la candidature de Laurent Wauquiez en 2027, une candidature qui nous fait très envie ici à Radio Canu. L'enquête cite également un autre proche collaborateur du président de notre belle région, donc lui c'est Arnaud B. Alors lui, il est marge autour de 10 000 euros bruts. Alors en net, on ne sait pas exactement ce que ça fait, probablement quelque chose comme 7 000 euros, hein. Il vit plutôt bien. Et lui aussi travaille depuis Paris aussi. Bon, il n'a pas mis un pied non plus au Rhône-Alpes. Et auprès de Radio France, plusieurs sources internes le soupçonnent de travailler exclusivement sur des questions nationales et non locales. Une autre personne encore, c'est Charlotte V. Elle a 27 ans, c'est la vice-présidente des jeunes républicains, des gens vraiment sympathiques avec des petits pulls sur les épaules, un peu sympa. Elle est employée en qualité de conseillère technique pour un salaire de 4000 bruts, un peu moins bien payé quand même. Et elle est également, elle travaille depuis Paris, aussi elle travaille depuis Paris. Et accessoirement, elle est également adjointe à la mairie de Nemours en Seine-et-Marne, une ville dont sa mère, est la mère. C'est incroyable. Ce qui en soi ne pose pas de problème juridique. Mais là où ça coince, c'est que du côté de Lyon, siège de la région, personne n'a jamais entendu parler de cette fameuse Charlotte V. Et puis enfin, la radio cite Roche 2B, qui est directeur adjoint du cabinet de Laurent Wauquiez, qui n'aurait pas davantage été aperçu du côté de l'hôtel de région à Confluence, et qui travaille aussi depuis Paris. Étonnant, non ? Pour les sources interrogées par Radio France, cette équipe parisienne ne travaille en réalité au service que d'une seule cause, l'ambition nationale de Laurent Wauquiez. Et oui, en conférence de presse jeudi, le président de région a vivement critiqué cette enquête, en disant, je cite, « Cet article repose, et je le regrette, sur des informations qui sont mensongères, erronées ou malhonnêtes. » Et puis il a expliqué que évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes allait exercer son droit de réponse pour donner sa version des faits. On a très très hâte, on fera l'écho évidemment du côté du Canu Information du vendredi ou pas. On attend de voir comment cette fois-ci en fait ça va circuler. Hein. On est un peu content qu'ils fassent de la pub pour la Sistana. C'est quand même notamment dans la période où on veut faire travailler toutes les personnes au RSA, assez intéressant que finalement Laurent Wauquiez, qu'on pensait l'ennemi de la Sistana, se mobilise en faveur de la Sistana de ses proches. En attendant, s'il y a des emplois fantômes ou fictifs à 5000 euros par mois à distribuer, il y a du monde que ça pourrait intéresser à Radio Canu, donc n'hésitez pas à envoyer les chèques du côté du 24 rue Sergent Blandan, 69001 Lyon. Merci d'avance.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette nuit.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulion.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer pendant la masse sur le rassemblement pour le mariage. Le rassemblement de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et bah ouais, on vous a parlé de Laurent Wauquiez de droite, alors on va vous parler de Lyon 2. Alors bon, historiquement, on croyait un peu que Lyon 2, c'était une fac de gauche, enfin c'est des trucs qui se murmurent quand même
c'est
pas mal.
C'est historique, on rappelle quand même que l'équipe actuelle a été élue sur des positions de gauche.
Et oui, mais il semblerait que des fois, il y a des gens de gauche qui aient des positions de droite, et en l'occurrence, c'est ce qu'on peut reprocher à la direction de Lyon 2. Du coup, il y a mardi un groupe de militants du collectif des 100 facs, donc c'est des gens qui ont demandé des inscriptions en licence ou en master, qui se sont fait têche, vous savez, c'est des nostalgiques d'une époque qu'on aimait beaucoup aussi, où la fac c'était accessible en fait à qui voulait et que c'était un peu l'accès à la culture pour toutes et tous. Ça c'est fini, hein. On sait que les facs maintenant c'est des places limitées parce que quand même faudrait pas que ça coûte trop cher, surtout ne comparons pas avec les classes prépa. Bref, en tout cas voilà, il y a une cinquantaine d'étudiants qui se sont pointés mardi dans la fac et qui sont arrivés devant les bureaux de la présidente de l'université pour réclamer qu'en fait on puisse accueillir tout le monde et que tous les dossiers soit étudié et que les étudiants étudiantes puissent simplement faire des études, ce qui semblerait être pas complètement délirant pour une université dont c'est la fonction entre autres. Voilà, donc ça, ils sont arrivés là-dedans. Alors, on parle de 50 clampins, enfin, faut quand même remettre les choses à leur place. La réaction de la direction de l'université, ça a été d'appeler les DEC et ils ont fait évacuer tout le campus manu militari avec des DEC et tout le tremblement, comme s'il y avait une alerte très crédible à la bombe ou je sais pas quoi. Là, vous en avez entendu parler, c'est un peu la mode en ce moment. En tout cas, voilà, ils ont vidé tout le campus, ils ont appelé les DEC et ils parlent aussi maintenant d'engager une sécurité privée parce que mieux vaut passer du pognon dans de la sécurité que dans les études de personnes. Donc face à tout ça, il y a quand même un problème et on croyait que ça allait, entre guillemets, en rester là, en tout cas de la part de l'université, qui allait peut-être simplement se demander, tiens, est-ce qu'une fac, c'est pas là pour former des étudiants et des étudiantes, ce qui semblerait être une réponse assez spontanée et assez logique, mais pas du tout. L'université Lyon 2 a du coup annoncé son envie de porter plainte contre les personnes qui sont rentrées dans l'université pour demander des études pour celles et ceux qui aimeraient en faire. Voilà, alors en se foutant de la gueule du monde, elle dit aussi dans le communiqué que l'ensemble des 50 dossiers portés par le collectif des 5 facs a été examiné avec attention, mais il reste dehors, du coup autant rien dire finalement, ça va plus vite. Donc on ne remercie pas, c'est Nathalie Dompnier, je crois.
Nathalie Dompnier.
Dompnier, pardon. La doyenne de la fac et toute sa direction. En fait, quand les gens rentrent dans une fac pour demander à faire des études, la bonne réaction, c'est de leur proposer un dossier d'inscription. C'est pas d'appeler des DEC, jamais.
Et puis on peut rappeler quand même qu'il y a ce qui s'appelle la franchise universitaire qui fait que les policiers n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de l'université si la direction ne leur donne pas l'ordre ou enfin en tout cas l'autorisation. Et ça c'est une tradition qui a quand même un petit peu vécu, qui a tendance à disparaître. Et on aurait pu aimer qu'une faculté comme Lyon 2 située ou se situant ou aimant se situer à gauche ne soit pas dans les facultés qui ruinent cette tradition.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
La bêtise n'a pas de limite, mais en revanche, des fois, eh bien, l'exploitation peut rencontrer des limites. Et oui, plutôt des bonnes nouvelles en provenance de Paris. On vous a pas mal parlé de Jeux Olympiques au Canu Info du vendredi. Le Jeux Olympiques, c'est pas seulement quelque chose de c'est pas quelque chose de juste catastrophique, si. Et c'est aussi quelque chose, les Jeux Olympiques, qui emploient énormément de monde, et notamment sur les chantiers actuellement destinés à construire les bâtiments, les équipements sportifs, etc., qui vont pouvoir accueillir les Jeux Olympiques. Et la particularité du secteur du bâtiment, c'est qu'il emploie beaucoup, beaucoup de sans-papiers. Et cette semaine, il y a en fait une semaine de mobilisation organisée par pas mal d'acteurs, hein, les Gilets Noirs, Droit Devant, le CSPM, le CSP75 et le syndicat CNTSO, qui s'est mobilisé tout au long de la semaine pour d'une part un peu mettre à l'arrêt ces chantiers et pour d'autre part surtout réclamer la régularisation des travailleurs sans papier largement exploités dans ces chantiers. Et ça a commencé ce mardi 17 octobre où un certain nombre de grévistes sans papier notamment et leur soutien ont envahi le chantier des Jeux Olympiques de l'Arena Adidas qui est situé Porte de la Chapelle, un chantier assez emblématique ces Jeux Olympique. Et à l'issue d'une négociation réunissant les grévistes, le syndicat CNTSO et leur soutien face à la mairie de Paris, la société concernée et leurs sous-traitants, la société notamment de bâtiments et d'intérim, on a eu une victoire et c'est relativement rare pour le souligner puisque ont été obtenus la signature d'accords cadres et ces accords prévoient la régularisation de tous les salariés des sous-traitants travaillant ou ayant travaillé ces derniers mois sur les sociétés concernées. Le « ayant travaillé » est quand même quelque chose d'intéressant. C'est pas seulement à l'instant T que ça se gagne. La ville de Paris a reçu Les personnes mobilisées pour jouer les facilitateurs avec les services de l'État, hein, notamment la préfecture et le ministère, ce mercredi 18 octobre. Ce qui est chouette, c'est que ça devrait permettre quand même la régularisation d'un certain nombre de monde. Et dans le communiqué du 17 octobre, différents collectifs et les différentes personnes mobilisées annonçaient continuer la mobilisation pour enterrer la loi Darmanin et arracher la régularisation de tous et toutes, au niveau notamment des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est chouette, on ne s'arrête pas sur une première victoire et on continue. Et dès le lendemain, qu'est-ce qu'ont fait personnes mobilisées? Elles sont allées envahir la société Kappa Intérim, qui est une agence d'intérim, qui a dû subir une nouvelle occupation. Il y avait déjà eu des précédents de plus d'une trentaine de salariés sans papier, et une fois de plus, on est quand même sur une seconde victoire en deux jours. C'était quand même plutôt bien. Les salariés ont obtenu que tous les intérimaires en poste le 18 octobre 2023 et dont la situation est connue se voient remettre le CERFA et tous les documents demandés par les préfectures pour permettre une régularisation. La société, par ailleurs, s'est engagée à rémunérer la journée de grève du 18 octobre et à examiner tous les dossiers des intérimaires en poste jusqu'au 13 octobre 2023. C'est pareil, on remonte un peu dans le passé, c'est pas uniquement les intérimaires en poste, évidemment, qui sont concernés. Donc, en limitant les conditions de remise des CERFA, la société Kappa laisse sur le pavé de nombreux salariés qui ont trimé pour l'enrichir. Elle s'expose à de nouvelles actions, prévient notamment le communiqué de la CNT ESSO, et notamment la saisine du Conseil des Prud'hommes, mettant en cause les sociétés utilisatrices. Et la CNT ESSO, dans ce second communiqué, qui lui a été paru hier, assure aussi continuer le mouvement pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Donc deuxième plutôt occupation victorieuse, c'est quand même toujours chouette à voir. Et on ne va pas s'arrêter là, puisque ce matin encore, le mouvement de grève des travailleurs sans papier a continué de se déployer en Île-de-France, et une équipe d'intérimaires de la CNTSO occupait ce matin même Badakan, qui est une autre agence d'intérim, dans le même but, obtenir la régularisation de toutes et toutes les travailleurs des Jeux Olympiques. Écoutez, on leur souhaite bonne chance, ça fait quand même plutôt du bien. On n'est pas vraiment dans un moment où, sur les questions d'immigration, on a eu tendance d'avoir une détente, donc c'est quand même toujours quelques régularisations, certes insuffisantes, mais arrachées à l'État. C'est une bonne nouvelle, on peut être content, on vous tiendra au courant des avancées qui viendront, on l'espère, dans les semaines à venir.
Et puis on peut tirer de ces mobilisations contre les JO, que les JO, ils y tiennent de ouf, et que finalement, ça donne aussi un très très beau moyen de pression et un beau levier qu'on n'hésitera pas à exploiter.
À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule ! Yeah !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et on va continuer en vous parlant d'écologie. Et du coup, vous connaissez certainement les soulèvements de la Terre depuis le temps, n'est-ce pas? On va vous parler de la bataille de l'A69. Donc, il y a un appel national à venir soutenir la mobilisation les 21 et 22 octobre. On va vous transmettre le communiqué des soulèvements de la Terre. Le 22 et 23 avril dernier, nous étions des milliers à confluer dans la région toulousaine pour « sortie de route », entre guillemets, la première mobilisation hexagonale d'ampleur contre l'A69. À l'appel des soulèvements de la Terre et du collectif local La Voix est libre, de nombreuses organisations, nous avions muré la quatre voies pour marquer notre détermination à empêcher les travaux et enterrer ce projet d'un autre âge. Cette autoroute inutile est en passe de ravager irrémédiablement plus de 400 hectares de terre. Malgré les recours juridiques encore en cours d'examen, l'État refuse d'attendre et donne encore et toujours la priorité aux intérêts privés de NGE, Vinci et Pierre Fabre. Il a décidé de s'asseoir sur l'avis négatif du Conseil de la protection de la nature, sur les 90% d'avis négatifs sur 6200 déposés à l'enquête publique environnementale, et sur celui de 200 scientifiques, dont les membres du GIEC, et ainsi de déclencher les hostilités. Depuis plusieurs semaines, les travaux ont ainsi commencé. 120 paysans et paysannes refusant de partir sont expropriés. Les pelleteuses ravagent terres arables, collines et zones humides. Les machines détruisent le paysage et l'habitat d'une multitude d'espèces animales et végétales. Elles abattent en quelques secondes des arbres centenaires. Mais il y a encore temps d'agir. Il est urgent de confluer de toute la France pour rejoindre et appuyer de toutes nos forces celles et ceux qui, sur place, s'organisent pour stopper immédiatement ces constructions irréversibles, ces destructions irréversibles. Parce que finalement, les autoroutes, on pourra toujours les détruire, mais enfin, c'est un peu chiant quand même. Sur la place de la résistance s'organise. Diverses actions de blocage et de désarmement d'engins ont lieu ces derniers mois sur les chantiers. Certains et certaines campent dans les arbres pour ralentir les abattages. D'autres préparent d'arrache-pied la mobilisation des 21 et 22 octobre prochains dans le cadre d'une suite d'actions de la déroute des routes au niveau national et à l'appel d'un ensemble de collectifs engagés de longue date dans le combat. D'autres font encore la grève de la faim depuis plusieurs semaines, sont pour certaines dans une situation physique déjà critique et trois d'entre elles ont annoncé le 4 octobre entrer en grève de la soif lundi si les chantiers n'étaient pas suspendus. Clément Beaune, donc, qui est le ministre des Transports, a récemment annoncé l'abandon imminent de certains projets routiers, sans dire lesquels, tout en maintenant l'un des plus gros, la 69. Après avoir reçu le 3 octobre des représentantes de la Voie Libre et du GNSA, la présidente de région Carole Delia a affirmé quant à elle qu'il n'y avait aucune autre alternative que la poursuite des chantiers. Une fois de plus, l'État fonce dans le mur et surtout détruit la planète coûte que coûte. Mettons-leur la pression, la bataille de la 69 sera décisive pour les terres du Tarn et pour toutes celles que le bitume menace. Elle appelle à une mobilisation massive les 21 et 22 octobre. Depuis l'interlude et l'intercomité des soulèvements de la Terre du 30 septembre, nous avons décidé de la rejoindre et de démarrer ainsi la sixième saison, la saison 6 des soulèvements de la Terre. Ensemble, faisons de ce week-end-là le point culminant pour la campagne, le point culminant de la campagne pour la déroute des routes. Je me suis perdu, on en est où ?
On est à la rubrique internationale parce qu'on ne peut pas non plus, alors même si Carole Delga a manifestement envie de devenir la Margaret Thatcher de l'autoroute puisqu'il n'y a pas d'alternative, on passe quand même au vrai international.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte. On écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste.
Et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et ouais, allez, on va être bien obligé quand même de vous parler un peu de Gaza, d'Israël. Alors le truc, c'est que on n'est pas spécialiste de la question. Par ailleurs, il y a plein de gens qui disent des choses très intéressantes. Si vous allumez pas votre télé, vous pourrez les lire. Du coup, nous, on va plutôt vous parler un peu de comment c'est approprié et géré en fait à l'échelle de la France, simplement, par notre gouvernement, en racontant un peu les conneries qu'ils ont dites, mais ça, bon, finalement, ils ont déjà bien de relais, mais plutôt en donnant notre opinion de à quel point on est loin de comportements qu'on pourrait, c'est même pas, loin de la décence et loin aussi du respect de, nous, on y croyait encore un petit peu aux droits et ces trucs-là.
Oui, mais l'important, ce sont les valeurs républicaines. Et quand t'as construit un pays sur la colonisation, à un moment...
C'est pas facile de s'en défaire. Et ben, évidemment, le premier truc, on va parler, il y a un enseignant qui a été tué à Arras. Alors moi, je sais pas exactement pourquoi, comme j'étais pas là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2 heures après, on avait Darmanin qui nous faisait un lien immédiat, parce que lui, apparemment, est dans la tête de la personne qui était armée du couteau, avec ce qui se passait au Hamas, etc. On rappellera, avant tout ça, qu'il est en train d'essayer de faire glisser une loi immigration de droite et d'extrême droite, et que pour ça, il courtise évidemment beaucoup les LR, parce que le RN, il est pour, mais il votera contre. Enfin, bref. En tout cas, il essaie de courtiser, et donc, le but du jeu, c'est d'être le plus raciste possible. Voilà, donc dans cet élan, il y a aussi un peu ce truc presque d'oublier à quel point on est antisémite, parce que finalement, les politiques colonialistes, ça nous parle. Et on a eu cette jolie phrase, la haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Il faut quand même être armé, j'allais dire de courage, mais certainement pas de stupidité, pas mal, pour pouvoir dire des choses pareilles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une circulaire qui a circulé de la part de Darmanin, qui a appelé, et ça c'est une exclusivité mondiale de la France finalement, on peut quand même oser le dire, à l'interdiction de
toutes les manifestations pro-palestiniennes qui est passée donc avec cette idée que finalement manifester pour une cause, et en l'occurrence on a bien parlé des manifestations pro-palestiniennes, pas pro-Hamas, donc pour des gens qui sont en train de se faire défoncer par des bombes quotidiennement, et ce depuis fort longtemps, mais là c'est quand même d'une intensité encore différente. Voilà, et c'est interdit de manifester son soutien dans la rue. Alors, et c'est là où c'est encore plus beau, c'est qu'évidemment il y a eu des appels pour dire en fait on n'a a priori pas le droit d'interdire les gens d'exprimer leurs opinions. Enfin, on vous passe tout le détail juridique. Et du coup il y a une espèce de petite torsion comme ça des esprits. Je sais plus, je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui a dit ça.
Le Conseil constitutionnel a retoqué ces interdictions.
Voilà, en disant ah ben oui, il a pas vraiment le droit de le dire, mais comme il a le droit de faire passer des consignes aux préfets et que les préfets ont pour mission d'appliquer ce qui se passe en fonction de ce qui se passe sur leur territoire, etc. En gros, faire une interdiction nationale comme ça, c'est interdit, mais les préfets ont bien le droit d'interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes qu'ils souhaitent. On va juste rappeler que bah, les préfets, ils sont nommés par l'État. Enfin, Darmanin, c'est leur chef. Du coup, quand il fait glisser une consigne, sachant qu'on est sur des gens très avides de pouvoir et qui ont très envie d'avoir des promotions, effectivement, ils ont dit que cette circulaire est invalide. Le fait est que les manifestations vont être interdites. Il y en a eu une à Paris, je crois, qui a été autorisé pendant la manifestation, puisqu'il y a eu un référé, etc. Alors ça a donné lieu à des images un peu sympas des keufs qui du coup ont dû remballer leurs canons à eau sous les huées, les gens qui les saluaient chaleureusement en leur disant que barrez-vous, c'est sympa. On notera malgré tout que l'autorisation c'était jusqu'à 20h et qu'à 19h55 ils étaient de retour prêts à tabasser tout le monde, ce qui ils n'ont pas manqué de faire, avec un peu les mêmes actions évidemment à Marseille, à Nantes et sur les manifestations lyonnaises. Voilà, on a un gouvernement qui parle de catastrophe humanitaire, mais en fait c'est pas une catastrophe sans jamais citer de responsable. C'est pas un ouragan là. On n'est pas. Alors, bon, Catherine, on pourrait discuter de la gestion par ailleurs. Enfin, plus que discuter de la gestion de l'État, mais en tout cas c'est pas un ouragan, c'est pas un événement qui tombe comme ça du ciel auquel on peut rien faire. Du coup, oser parler de catastrophe humanitaire sans jamais nommer de responsable à ça, en fait, on n'est pas face à un événement imprévu. Dans le même mouvement, bah, il y a le NPA et l'UJFP qui sont menacés d'action en justice pour apologie du terrorisme suite à leur prise de position. Alors bon, le NPA, c'est certes pas LFI.
C'est bon, pas la bande à Badère non plus.
Mais voilà, on n'est pas sur des dangereux terroristes malgré toute l'affection qu'on peut porter à certaines d'entre elles. En tout cas, voilà, ils sont menacés d'action en justice pour apologie du terrorisme. Et surtout, accrochez-vous bien, le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord a été interpellé ce matin à 6h à son domicile et placé en garde à vue, ainsi que la secrétaire administrative de l'Union départementale. Donc ils auraient été arrêtés pour apologie du terrorisme, avec tout le tremblement de l'antiterrorisme, donc des dizaines d'agents, des gens cagoulés, on le prend en joue et tout le tremblement. On parle du secrétaire de l'Union départementale de la CGT du Nord. Rien à voir avec le Nord, hein, ça pourrait être ailleurs, on ne va pas se tromper. En tout cas, la CGT des dangereux terroristes, alors certes, quand ils attaquent EDF, on essaie de nous faire croire ça, mais enfin là, dans ce contexte, c'est quand même vraiment ouf. En gros, le but, c'est que tous ceux qui sont pas, qui expriment pas un soutien inconditionnel, comme le fait l'État à Israël, avec cet amalgame constant entre la Palestine, le Hamas, Israël, les Juifs, qui est quand même bien mélangé, et toute cette extrême droite qui finit par en oublier à quel point elle est antisémite, tellement elle est islamophobe, et que ça c'est quand même un enjeu très très fort, parce que voir le RN qui ose se positionner pro-Israël et en tenant des propos qu'eux disent pro-juifs, c'est quand même c'est pas fort de café, en fait le terme c'est que ça fout la gerbe et ça fout la haine. Voilà, on va finir sur les trucs un petit peu con, mais peut-être pour se détendre un petit peu de tout ça. Bon, alors il y a eu la polémique Benzema, c'était un peu marrant. Benzema, il a dit j'apporte mon soutien aux civils qui crèvent sous les bombes. Je vous fais le résumé. Ce à quoi du coup Darmanin a dit qu'il était sympathisant des frères musulmans, ça a été repris par une préfète qui dit si Darmanin dit vrai, il faut la déchéance de nationalité.
C'est pas une préfète, c'est une députée LR, je crois.
Une députée LR, pardon. Ouais, il faut la déchéance de nationalité.
Il a retiré son ballon d'or.
Ah oui, bon, alors ça, bon, on laissera la FIFA faire, on n'en a pas grand chose à pétave. La nationalité de Benzema, il est français, il est juste français, du coup, voilà, tout est dit. Et on notera par ailleurs qu'il est allé jouer. enfin jouer au foot et surtout gagner beaucoup d'argent en Arabie Saoudite, qui considère les Frères musulmans comme un groupe terroriste, et que on sait que l'Arabie Saoudite n'est pas franchement un pays très très souple avec ses opposants et ses opposantes. On pensera au journaliste qui a été tué et découpé à la tronçonneuse dans une ambassade. Bref, voilà, pour finir, on va se marrer un peu, parce que quand même, dans cette atmosphère où le racisme et l'islamophobie est partout, et surtout où on a un gouvernement qui interdit tout, et ça fait hyper flipper, ça continue dans leur mouvement de vouloir dissoudre tout ce qui n'est pas eux, et là, d'interdire toutes les manifs. D'ailleurs, il y a une manif, il y a un appel à manif qui a été lancé pour samedi. Sachez que la manifestation a été interdite, mais a priori, l'appel est maintenu. En tout cas, c'est quand même un sacré délire. Du coup, on va se marrer un peu, parce qu'ils vont jusqu'à faire des choses si ridicules que la rédaction du Gorafi, comme ça a été beaucoup vu sur Internet, a probablement perdu son travail ce jour-là. Il y a, vous savez, Shamas Tacos, une chaîne de tacos, je ne me rappelle même plus dans quelle ville c'est, peu importe.
En région parisienne, je crois.
En région parisienne, voilà. Et qui avait sa devanture avec le C qui ne fonctionnait plus depuis 6 mois, soit dit en passant, et qui, du coup, éclairait Hamas Tacos. Les decks se sont quand même pointés à 5 bagnoles pour dire aux gens, vous fermez le restaurant, et en vrai, si vous le fermez pas là tout de suite maintenant, c'est fermeture administrative dès demain. Voilà, donc si jamais vous avez un Hamas Tacos et que vous voulez continuer de pouvoir éventuellement travailler, n'hésitez pas à acheter des ampoules en rab. Il semblerait que ce soit quand même vraiment extrêmement, extrêmement grave.
Placer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
En Europe, la question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Retour à l'antenne, retour avec des informations pas forcément beaucoup plus gaies. Et ainsi, on a vu sortir quelques statistiques intéressantes sur le logement social. Donc hier est parue une étude soutenue par le Défenseur des droits et visant à qualifier et à quantifier les difficultés d'accès des ménages les plus pauvres au parc social de logement. Cette étude, en fait, elle s'inscrit dans une réflexion de long terme, hein, qui est menée à l'échelle internationale par l'OFCE, comme en France par le Défenseur des droits, sur le processus d'attribution des logements sociaux et dans le prolongement de recherches précédentes menées par des chercheurs et chercheuses qui ont révélé les difficultés d'accès au parc social des ménages les plus pauvres. L'analyse en fait des taux d'attribution par tranche de niveau de vie confirme en fait les difficultés d'accès de ces ménages. Ainsi, au niveau national, les ménages qui déclarent moins de 500 euros par mois et par unité de consommation, on va dire par personne pour généraliser, même si c'est un peu plus compliqué que ça, les unités de consommation, ça prend en compte aussi les parts fiscales, c'est-à-dire le nombre d'enfants que vous pouvez avoir. Eh bien, les ménages les plus pauvres, hein, ceux qui ont moins de 500 euros par tête, sont ceux qui connaissent en fait le taux d'attribution le plus faible. Ils ont environ 12% de chance d'obtenir un logement social dans l'année. Ceux qui déclarent entre 500 et 600 euros de niveau de vie enregistrent un taux d'attribution de l'ordre de 15%, un poil plus élevé, et le taux d'attribution des ménages des tranches de vie supérieures oscille entre 17 et 19%. Donc autant dire qu'on est en train de comparer des gens qui galèrent à avoir des logements sociaux un peu plus aisés à des logements qui galèrent à avoir des logements sociaux vraiment très pauvres, mais quand même ça pose des questions. Donc si les demandeuses et demandeurs les plus pauvres ont accès à un parc de logements plus réduit, notamment dans les zones tendues, donc les zones tendues pour schématiser, hein, c'est peu les grandes villes, hein, à Lyon, vous pouvez attendre 10 ans d'avoir un logement social si vous êtes par exemple, si vous n'avez pas d'enfants ou si vous visez des petites surfaces, cela ne suffit quand même pas à expliquer leur plus faible probabilité d'attribution par rapport à l'ensemble des demandeurs et demandeuses. Une fois contrôlé, donc statistiquement, hein, donc on redresse en fait un petit peu les statistiques, l'offre disponible, pardon, mais aussi les caractéristiques des ménages, hein, donc des ménages, la composition familiale, le nombre d'enfants, le motif de la demande, hein, qui peut être assez varié, la priorisation du dossier, le nombre d'enfants, la nationalité des personnes, le statut vis-à-vis de l'emploi, est-ce que vous avez un contrat à long terme, est-ce que vous êtes au chômage, est-ce que vous avez un CDI, la localisation de la demande, etc. Si toutes choses égales par ailleurs, les chances d'obtenir un logement social ont tendance à croître avec le niveau de vie, ce qui est un peu absurde pour du logement social. Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, plus les demandeurs ou demandeuses sont pauvres, moins ils et elles ont de chances d'accéder au logement, et ce, en fait, indépendamment des autres caractéristiques. Les difficultés sont particulièrement importantes pour tous les ménages, en fait, qui déclarent moins de 800 euros de niveau de vie par unité de consommation et le sont encore davantage pour celles qui déclarent moins de 500 euros de niveau de vie. Alors là-dedans, évidemment, on l'a vu un petit peu avec les zones tendues, il y a des disparités territoriales, elles sont importantes. Sans surprise, en fait, le niveau de tension, plus vous êtes dans une grande ville, en gros, hein, et donc l'offre de logements disponibles détermine en partie les choix opérés par les acteurs lors des attributions. Et la hiérarchisation de la demande apparaît par ailleurs comme un facteur déterminant en défaveur des ménages les plus pauvres. En fait, ces ménages, ils sont en quelque sorte mis en concurrence avec des ménages moins pauvres, mais qui vont cumuler d'autres critères déterminants en matière de hiérarchisation, leur situation familiale, leur taille ou la composition du ménage, l'ancienneté de la demande, la situation au regard de l'emploi, etc. Alors tout ça, quand même, évidemment, c'est un peu particulier, le fait que plus on est pauvre, moins on a de chances d'obtenir un logement social. Mais ça rappelle aussi que globalement, le logement social, on est 70% à peu près de la population à y avoir accès, hein, ce qui est plutôt une bonne chose en réalité, puisque c'est quand même hyper galère de se loger dans le parc privé de louer, tellement ça coûte cher. Et en fait, le gros rappel que ça pose, ça, c'est quand même qu'on manque cruellement de logements sociaux. Rappel qu'il y a aussi 3 millions de logements vides en France, donc peut-être en récupérer une partie pour les rénover ou les reprendre pour ceux qui sont en bon état et les convertir en logements sociaux serait sans doute une bonne idée. Peut-être qu'il faut en construire un petit peu, mais en attendant, c'est sans doute une revendication importante à avoir et qui permettra, on peut l'espérer, si on avait plus de logements sociaux, de gommer cette inégalité flagrante. Malheureusement, il faut quand même dire que l'optimisme de ce point de vue-là n'est pas de mise.
D'autant plus que ça s'inscrit dans cette espèce de guerre des pauvres entre les pauvres et de toujours accuser le plus pauvre que soit, c'est une belle stratégie du gouvernement qui est menée, parce que finalement, on regarde pas bien au-dessus si on nous dit que c'est à cause de ceux d'en dessous qu'on est dans la merde.
Absolument, d'ailleurs je t'ai chippé tes chips.
Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Et ben, quand on n'a pas accès au logement, et ben, on finit à la rue, et quand on est à la rue, c'est la merde, et il y a beaucoup de distributions alimentaires qui viennent essayer de pallier, ce serait un grand mot, mais en tout cas de permettre aux gens de bouffer un petit peu quand ils et elles vivent à la rue. Seulement, voilà, bah, la préfecture de Paris trouve que vraiment c'est très très malin, dans un contexte où il y a 3,5 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, d'interdire les distributions alimentaires sur certains points à Paris. Donc ça date du mardi 10 octobre. Donc c'était accessoirement la journée internationale de lutte contre le sans-abrisme, on vous laisse profiter de l'ironie de la chose, où la préfecture de police de Paris a décidé d'interdire pendant un mois complet la distribution de denrées alimentaires, sous prétexte que cela viendrait stimuler la formation de campements et générerait des troubles à l'ordre public. Alors moi, par exemple, je vois un trouble à l'ordre public, en fait, quand je vois des gens qui ont la dalle et qui sont obligés de faire la queue faire la queue pour aller chercher à bouffer. Ce qui me dérange, c'est pas tant les personnes qui sont là, c'est qu'on les ait mis dans cette situation. Peut-être ça pourrait être un angle de réflexion auquel j'invite la préfecture de police à envisager de se saisir. Voilà, donc en gros, cet arrêté, il s'inscrit dans la politique globale dite de zéro point de fixation. Donc ça, c'est la stratégie des keufs à Paris, mais pas que à Paris, hein. C'est la même merde à Lyon, où du coup le but, c'est de ne laisser aucun répit aux personnes de la rue, à démanteler de manière systématique tout rassemblement et à entraver l'aide humanitaire. Dans ce cadre, évidemment, on observe la dégradation, la destruction du bien, la destruction et le vol des biens des personnes, le recours à des violences verbales et physiques, ainsi que l'entrave, évidemment, aux personnes qui souhaiteraient les soutenir. Donc en fait, quand on va voir des gens systématiquement pour pas qu'ils restent, pour les faire bouger, pour leur niquer leurs affaires, pour les faire partir, pour qu'ils aillent ailleurs, pour aller les voir ailleurs, pour aller les niquer, voler leurs affaires, leur dire de se barrer, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle du harcèlement, hein. C'est exactement la définition solution, c'est de jamais lâcher la grappe à des personnes qui sont déjà dans une merde de ouf. Et du coup, la stratégie officielle de la préfecture de police de Paris et de bien d'autres, c'est de harceler des personnes en imaginant, et c'est toujours là qu'on voit que leur logique s'arrête très très vite, c'est qu'a priori, harceler des personnes, ça ne les a jamais fait disparaître et ni ça ne leur a trouvé un logement et éventuellement un taf pour celles et ceux qui en voudraient. Voilà, donc le but, en fait, c'est juste une maltraitance généralisée. Et là, c'est une forme d'expression de ça, de dire, bon, en fait, vous avez la dalle, on n'en a rien à foutre. Et en fait, on va interdire le fait que vous mangez parce que ça fait des regroupements. Mmh. Et oui, c'est un peu le principe des villes, finalement. On met de l'accès à des denrées, les gens viennent autour, etc. C'est pas un concept très nouveau. Par contre, le fait que des gens crèvent la dalle à Paris, a priori, ça n'atteint pas la préfecture de Paris. On rappelle qu'il y a des arrêtés anti-distribution qui avaient déjà été pris, vous savez, à Calais, où les mêmes politiques de harcèlement, d'une violence et d'une présence et d'une violence policière constante et qui venait s'appliquer évidemment sur les personnes qui vivaient dehors, mais aussi beaucoup de pression mise sur les personnes qui venaient soutenir et qui venaient aider en distribuant de l'eau ou de la bouffe ou des vêtements ou quoi que ce soit. Donc ces arrêtés en distribution, ils avaient déjà été pris fin 2020 à Calais. Mais qu'en 2022, finalement, il y a un tribunal qui a été obligé de statuer sur le fait que c'était manifestement inadapté et disproportionné. Il me semble que le terme indécence aurait largement suffi tout seul. Voilà, alors coup de bol, il y a eu un référé qui a été porté et exceptionnellement, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté. La juge estime qu'il existe un doute sérieux quant à la nécessité de la mesure prise par le préfet de police pour préserver l'ordre public. On rappellera pour finir que, à part pour les enfants, l'hébergement des personnes, ça dépend de la préfecture. Si jamais ça venait à trop les faire chier qu'il y ait des gens dehors, ils ont juste à leur filer un hébergement et encore mieux, un logement.
Vers revoir un rouminet.
Et voilà, je suis pris de court par ce jingle trop court, mais en tout cas, on a cru.
On va parler vraiment de Grosminet.
Cette fois, on vous a pas menti, on va vraiment parler de Grosminet. Et avec toutes ces nouvelles de merde, ça me donne envie de rappeler une phrase prononcée par Gaston Lagaffe dans la bande dessinée. Si tous les généraux du monde avaient un chat qui dorme sur leurs genoux, peut-être le monde irait-il mieux. Ça suffirait certainement pas, mais ça serait déjà ça. En tout cas, nous, on va vous parler du ronronnement du chat, parce que vous le savez, ça a des vertus soignantes, etc. Mais c'est surtout, c'était un grand, grand mystère pour tous les scientifiques du monde qui se demandaient comment c'est possible qu'un machin aussi petit, parce qu'un chat, c'est quand même pas énorme, ça fasse des bruits aussi graves. C'est plus grave que la voix humaine qui est à 140 Hz, là où, a priori, les chats, les ronronnements, ce serait 30 ou 70 Hz, voilà, pour les fans de son. Et ben, du coup, ils ont cherché ça et ils ont réussi à faire le lien. En fait, il y a des tissus, des sortes de petits coussinets de 4 mm de diamètre qui étaient dans les chats, qui savaient qu'ils étaient dedans, mais qui savaient pas bien à quoi ça servait.
Et ils sont où exactement dans les chats, ces coussinets?
Alors, ils ont découvert des masses inhabituelles de tissus fibreux incrustés dans les cordes vocales. Des sortes de petits coussinets de 4 mm de diamètre qui avaient déjà été vus, mais personne n'avait trouvé leur fonction. Et en fait, ils sont la clé du ronronnement, nous dit-on. Ils augmentent la densité des cordes vocales du chat. Ils les lestent en quelque sorte, ce qui leur permet de produire ce son très grave. Ce qui veut dire aussi que lorsque le chat ronronne, c'est comme quand il miaule, c'est le même mécanisme, un moyen d'expression et pas seulement une contraction musculaire. Voilà, et ben un mystère de résolu, on pense à tous les petits chats qui ronronnent et on apprécie leur présence.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est
l'agenda.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Lyon cette semaine? Eh ben, vous irez évidemment à la permanence info shop de la Lutine. Vous commencez à la connaître de 14 à 18. Et puis, c'est pas très loin. Vous pourrez aller fouiller dans les trésors de l'ECG. C'est la braverie d'automne. C'est samedi de 14h à 18h à l'espace communal de la Guillotière. Je me rappelle plus du numéro, mais c'est rue Béchevelin.
C'est 27 rue Béchevelin, je crois.
Voilà, 27 rue Béchevelin. Vous trouverez.
Alors, c'est 27 rue Salomon-Rénac pour l'annexe, mais globalement, c'est.
Mais c'est à l'ECG là. C'est pas l'annexe. Alex, du coup, c'est bien. Bon, c'est Rue Béchevelin, vous allez trouver.
C'est écrit dessus.
Du coup, il y a l'appel à manifestation interdite, pas interdite. On vous prend un agenda qui est peut-être outdated, n'est-ce pas? En tout cas, on va quand même en parler. Il y a l'appel au Rassemblement solidaire du peuple palestinien, halte au crime contre l'humanité. C'est place des terreaux et c'est à 15h que ça se passe. Lundi, bon, il y a la chorale militante à la Lutino 91 rue Montesquieu, c'est à 19h30. Le mercredi 25, de 17h à 19h, c'est à l'illégalité. C'est pareil, j'ai plus l'adresse.
C'est du côté de Cusset, à Villeurbanne.
Cusset, bon, vous trouverez facilement l'adresse.
Avant, ça s'appelait la sandale du pèlerin, si vous ne trouvez pas l'adresse.
Exactement. Mais je crois que même ces références, bref, peu importe. C'est 17h à 19h. C'est mercredi et il y a un rendez-vous pour le lancement des ateliers d'écriture aux prisonniers et prisonnières. Du coup, ça se passe à l'illégalité. Le jeudi 26, il y a le rassemblement de soutien aux 5 antifascistes inculpés pour le murage du local du Baston Social. Ça, c'est à 13h30 et c'est devant le TGI de Lyon. Il y a les orphelines, donc l'autoréparation de vélos en mixité choisie au Chat Perché, aux ateliers du Chat Perché rue Salomon-Rénac, c'est de 18h à 20h30. Et une soirée rencontre avec Victor Cachard et le collectif 269 Libération Animale, histoire et réhabilitation du sabotage, briser les machines pour rendre nos luttes efficaces. Ça, c'est à 19h et c'est à l'atelier des Canulars. On va quand même vous parler de vendredi prochain, puisqu'il y a l'Halloween Fest 2023 qui commence à 15h à l'illégalité. Vous avez tout le programme sur Rébellion, il y a plein de trucs qui vont s'y passer. Et on mentionnera aussi que vendredi 27, c'est normalement la fin du procès des accusés du 8-12. C'est toujours l'occasion de rappeler que vous pouvez suivre le procès et toutes les conneries qui sont dites, parce qu'il y en a quand même un paquet et pas du bon des accusés, n'est-ce pas, sur les blogs de soutien. Vous tapez bloc de soutien accusé 8-12, vous le trouverez sans doute. En tout cas, c'est la fin du procès et du coup je crois que le verdict doit être rendu à ce moment-là et qu'il y a une mobilisation à Paris.
Canyon Info du vendredi. Savoir qu'est-ce que ça veut dire
ACAB. Radio Canu, la radio la plus brillante.
Bonsoir, les appels se sont encore multipliés. On en a eu énormément ce soir sur le numéro de Radio Canu. Du coup, on a été obligé de sélectionner deux possibilités. La première en référence au chat, donc c'est de l'anglais, je vous le lis. C'est écrit All cats are beautiful.
Miaou.
C'est vrai, il y a quand même des chats moches. Je trouve vraiment, en tout cas, ce n'est pas là pour donner notre avis. C'est une proposition qui a été terminée. Seconde proposition qu'on a reçue, qui est assez incroyable, qui se réfère aux luttes écologistes et à Laurent Wauquiez, puisque c'est les assistés mettent le chantier de la 69 à la benne.
Et ben voilà, il est. Ah, on finit un peu plus tôt, il est 19h05, mais là, ça, c'est quoi qui suit?
Je crois que c'est l'heure de Crucial Reggae Times, votre émission de dub du mardi soir.
Voilà, du coup, qui vient le vendredi soir pour votre habituelle émission de dub.
Absolument. Non, en fait, c'est Noise Pollution, mais.
C'est comme du dub avec des guitares électriques, enfin, vous verrez bien.
Vous verrez.
Et quant à nous, on se retrouve pas plus tard que vendredi prochain sur le 102.2. Et évidemment, il y a les infos tous les soirs à 19h et même le matin à 8h. C'est vrai qu'on n'a pas
annoncé. Absolument, nous sommes rediffusés demain matin. Si vous vous levez tôt ou tard le samedi, eh bien, vous pourrez nous écouter. Je ne sais pas si on est rediffusé le samedi ou si ce n'est pas juste les jours
de tous les. Et ils murmureraient même que ce soit le dimanche.
Waouh. Voilà, vous avez beaucoup de temps pour nous réécouter si vous avez trouvé cette émission incroyable ou tout simplement parce que vous nous aimez. Nous vous aimons aussi.
Et bonne soirée à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Salut.